Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Joël Pariente, avec qui nous allons parler de mémoire et de transmission. Bonsoir Joël.
Bonsoir.
Alors, Joël Pariente, né mille Gromain, il faut le dire, et je me suis demandé comment vous présenter. Et pour y répondre, je me suis plutôt demandé pourquoi vous avoir invité dans cette émission culturelle. Et la réponse est venue tout de suite, c'est par rapport à votre recherche mémorielle, qui est un modèle, qui peut être un modèle pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, et qu'ils pourraient bien évidemment suivre. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez collecté depuis des années de nombreux documents généalogiques, archivistiques, photographiques, des témoignages sur votre famille paternelle et maternelle. Et pour évacuer le sujet d'emblée, on peut le dire, hein, vous me dites si vous voulez ajouter des choses, que vous êtes l'épouse de Patrick Pariente, le fondateur de NAFNAF, la belle-sœur de Judith Milgrom, la créatrice de Mage et Sandro, et que vous êtes aussi et surtout la fille de Salomon Milgrom, une des légendes du quartier du Sentier. Alors la première question que je souhaitais vous poser, comment et quand avez-vous ressenti l'envie de vous plonger dans votre histoire familiale?
Alors en fait, j'ai toujours été interpellée par cette histoire, mais jamais jusqu'alors j'avais osé aller de l'avant. Et en 1997, en août, je suis en vacances. Je lis un livre de Sarah Friedman sur une saga de jeunes juifs qui va jusqu'à Copernic. Au même moment, je meurs Jeanne Calment, ma grand-mère maternelle à 99 ans, et je me dis, c'est aujourd'hui où tu ne le feras plus. Et je suis rentrée, je l'ai assise devant une caméra. Ma mère est venue ce jour-là. Elles ont raconté l'événement fondateur, c'est-à-dire la rafle du Veldiv, la période où ma mère a été cachée enfant avec son frère. Et je suis partie de là. Et pendant 8 jours, je l'ai interviewée. Et j'ai vu cette femme de 99 ans, tous les jours, avancer, revenir, et on est reparti sur la trace de sa vie, on est parti de son enfance et on a tout déroulé comme ça. Et à partir de là, j'ai commencé et j'ai envie de me plonger dans leur histoire.
Alors avant cette étape fondatrice, comment ça se passait? Est-ce que comme dans toutes les familles ashkénazes, on parlait pas, on parlait peu? Est-ce que vous posiez des questions? Votre frère également?
Mon frère est plus jeune de 4 ans. Je crois qu'il y avait une énorme pudeur. Le drame, il a toujours été présent. Il y avait au mur de ma grand-mère, donc maternelle, mon grand-père a été arrêté avec ses deux aînés, enfin ses deux fils aînés et son fils au moment de la rafle du Veldiv. Ils ne sont jamais revenus. Et on a grandi avec ce point d'interrogation, cette espèce de trou béant, cette absence qui prenait tout l'espace en même temps. Et donc ils étaient au mur, mais on savait l'histoire, mais on n'a jamais osé questionner par pudeur, par sensibilité. On savait que c'était douloureux.
Alors, il y a deux itinéraires hein, qui se rejoignent, ceux de votre famille paternelle et maternelle, il faut le dire, les Milgrom et les Sankovic. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ils viennent?
Les deux sont originaires de Pologne et ils ont un parcours similaire, c'est-à-dire que les deux grands-pères vont arriver dans les années 30. Du côté de mon grand-père maternel, lui, il est né dans un petit village qui s'appelait Ciepielo, entre Lublin et Radom. Ma grand-mère est née juste dans un petit village à côté qui s'appelle Josefov nad Wisla. C'est vraiment l'idée du shtetl. Mon autre grand-mère, donc Hélène Milgrom, elle vient de Varsovie. Mes grand-mères, c'était un peu Laurel et Hardy, une petite un peu ronde, et l'autre une femme élancée. Une qui avait fait des études et l'autre qui était complètement ignorante. Et ma grand-mère Milgrom, qui était cette petite femme rondouillette, était très fière et c'était moi, la Varsovienne. Son mari venait, lui, d'un petit village. Il est né à Kaliouchine, qui est à côté de Varsovie. Puis il a grandi à Radzymin. C'était déjà le provincial pour elle. Et voilà, j'ai ces deux univers. Donc, ils ont ce destin parallèle. Un grand-père vient en 31. Mon grand-père maternel en 33. Les femmes vont les rejoindre avec les enfants 2 ans plus tard. Ils vont commencer à prospérer. Et puis, la guerre va arriver. Et là, chacun va avoir sa route.
Alors, on sent dans votre discours qu'il y a deux figures tutélaires, hein, ce sont vos deux grands-mères. En quoi elles vous ont marqué?
En quoi elles m'ont marqué? C'est vraiment les Yiddish et Mamé, je crois. Et l'une était la bonté, ma grand-mère maternelle. C'était une femme, voilà. Et elle avait vécu ce drame qui l'avait marqué, mais elle vivait pour ses enfants. L'autre était... C'était la figure, elle était à la caisse, dans son magasin. C'était vraiment une figure de proue et une maîtresse-femme. Même si je pense que mon grand-père, elle aimait avoir le sentiment de diriger.
Vous avez grandi avec elle? Est-ce qu'elle vous a raconté des histoires du passé?
Elle racontait, je pense qu'on racontait toujours les mêmes histoires, mais à l'époque, on n'osait pas poser des questions. Et je pense que les gens, on ne se souvient pas qu'on vivait dans un monde divisé en deux. Tout ce qui se passait derrière le rideau de fer, on n'y avait pas accès. Donc pendant des années, je n'avais même pas imaginé qu'un jour je pourrais retourner en Pologne et que je pourrais avoir accès à toutes ces archives. Et je pense que c'est vraiment dans les années 80 qu'on a pris conscience qu'on devait témoigner et qu'on devait laisser des traces. Et c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à interroger. Et puis, il y avait un deuil impossible. Et j'ai vécu, ma mère dit qu'elle a mis plus de 15 ans à accepter, et je ne suis pas sûre qu'elle l'ait accepté encore aujourd'hui. Et on n'a jamais eu une preuve formelle. La première preuve qu'on a eue, ça a été le nom écrit dans le livre de le mémorial
de Serge Klarsfeld.
Et je crois que c'est là où on a vraiment accepté qu'il ne reviendrait plus. Mais je pense que ça a été vraiment une manière d'avancer. Je comprends les gens qui disent qu'on ne peut pas faire un deuil tant qu'on n'a pas une preuve tangible. Et pour nous, ça a été vraiment...
Alors, vous avez un fonds d'archives pour vous reposer aussi dans vos réflexions, dans vos recherches, dans votre quête de mémoire. De quoi il est constitué? Et puis, ce qui est intéressant aussi, quels ont été les premiers éléments que vous avez trouvés sur votre famille?
Tout enfant, j'étais toujours fourrée dans le placard à photos ou dans les albums. Je connaissais vraiment l'histoire par cœur. En plus, on a une particularité, c'est que chaque membre survivant du côté de ma mère a épousé quelqu'un du côté de mon père. Et quand j'ai commencé par ces interviews. Et puis, je suis allée aux Archives nationales et j'ai trouvé les fiches de Drancy. Et puis, j'ai trouvé le dossier d'administrateur provisoire de mon grand-père Léon Milgrom. Et voilà, j'ai commencé progressivement, j'ai fait ça vraiment comme un amateur. Et puis dans les interviews, donc en août 97, j'interroge ma grand-mère Dobra Sankovic. Et en janvier, je vais faire la même chose du côté d'Hélène Milgrom. Et là, du côté Milgrom, il y a beaucoup plus de membres de la famille. Et je vais tous aller les voir pour chercher des histoires sur ma famille. Mais en même temps... Mandelson a très bien décrit ça. Je veux dire, on rencontre des gens qui ont, on entend quelques petites choses à dire, mais qui ont envie de vous raconter leur histoire. Et du coup, j'ai découvert comme ça tout un tas de cousins, de membres de la famille qui ont eu aussi des destins tragiques. Et je me suis sentie quelque part une responsabilité de témoigner pour eux aussi, parce qu'ils n'avaient pas toujours non plus de descendants pour le faire.
Est-ce que vous avez une explication? Pourquoi vous? Pourquoi pas un autre membre de la famille? Pourquoi cette sensibilité accrue chez vous pour la connaissance de l'histoire familiale?
Alors, les disparus de Mandelson a été très important pour moi parce qu'il répond à beaucoup de ces questions-là. Et à un moment, il pose la question « Pourquoi moi ?» C'est la question que vous me posez. Je me la suis posée aussi, puis un jour j'ai dit parce qu'il en fallait un et c'était moi. Et puis voilà, c'est moi et je pense que je ne saurais peut-être jamais pourquoi, mais je ne peux faire que ce constat-là.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Jaol Perriand qui nous parle de son histoire familiale. Comment les autres membres de votre famille ont accueilli vos recherches? Est-ce qu'ils vous ont dit « oui, c'est une histoire révolue, on ne veut pas en entendre parler » ou « c'est passionnant, on veut en savoir plus » et notamment vos parents?
Mes grands-mères, d'abord j'ai eu le hockey de mes grands-mères et c'était super important. Mes grands-mères m'ont encouragée là-dedans, mes parents aussi, sauf que c'est une histoire qui dure depuis maintenant très longtemps et que je n'ai... pas vraiment produit de choses, donc j'ai distribué à chaque fois les informations, je les ai remontées auprès de la famille, mais je n'ai pas écrit de livre encore, oui. Je n'ai rien fait, et je vous remercie justement de me permettre de semer ce premier caillou.
Mais il faut dire que vous aviez une matière énorme, vous avez fait un travail considérable. Il y a des photos, il y a des panneaux qui peuvent constituer une exposition, vous avez des documents d'archives, vous avez des histoires et des éléments géographiques. C'est un travail de professionnel que vous avez fait.
Ouais, au début c'était simple, je voulais juste témoigner du côté de ma mère, de ses frères et sœurs et de son père. Et puis après je me suis retrouvée au milieu de cette histoire. Puis le temps a passé et puis tout d'un coup je suis devenue moi-même... une grand-mère qui a la charge de transmettre à ses petits-enfants l'histoire de ses grands-mères. Donc, c'est là où je me suis retrouvée vraiment embarquée. Et puis, je suis aussi le témoin de comment ma génération a vécu la Shoah et sans la vivre en direct, comment elle l'a, voilà, elle l'a vécu et les traumatismes que ça a fait aussi chez nous, parce qu'on n'est pas sorti indemne de cette histoire.
Oui, vous êtes, comme on le dit, le témoin des témoins des témoins et vous passez le flambeau à vos enfants et vos petits-enfants. Votre papa va fêter bientôt son 90e anniversaire. Il y a un nouveau travail mémorial que vous faites autour de ça. Est-ce que vos recherches s'inscrivent dans cet anniversaire?
Alors, les deux vont faire leurs 90 ans.
Et votre mère et votre père?
Mon père et ma mère. Et du coup, on voulait se réunir au niveau de la famille et puis de faire un film comme ça pour raconter. On avait fait pour leurs 80 ans une fête magnifique et c'était effectivement un moyen de témoigner parce que le temps passe. On sait qu'il suffit d'une étincelle, d'un souffle et voilà, je veux qu'ils racontent, je veux qu'ils nous donnent et leur parcours de vie et des réflexions. Je voudrais avoir une série d'interviews sur des réflexions effectivement de sujets actuels ou des sujets intemporels. Et puis un côté ludique sur un questionnaire un peu comme les amours ou des choses, voilà, que ce ne soit pas que dans la tristesse parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'amour dans notre famille, donc ce n'est pas que ça.
Alors, vous êtes mariée avec un séfarade, votre frère aussi. Est-ce que ça joue dans votre attachement à votre identité ashkénaze? Est-ce que le fait d'être mariée avec quelqu'un qui ne partage pas cette histoire familiale, eh bien, vous donne encore davantage l'envie de rechercher vos origines?
Je crois que mon mari a été un formidable booster. Je veux dire, c'est vrai que les séfarades n'ont pas eu le même parcours que nous. Ils ont une joie de vivre, ils ont un enthousiasme. C'est une vraie locomotive. Je pense que j'ai vraiment le spleen slave et que sans lui, j'aurais peut-être déprimé. J'adore cette histoire du garçon qui appelle sa mère en lui disant « Maman, comment ça va ?» et où elle lui répond « Très bien » et il lui dit « Excusez-moi, je me suis trompée de numéro. » Je pense qu'on a vraiment ça.
Il faut dire que votre époux est d'origine tunisienne.
Voilà. Et à un moment, j'avais à la maison... mis sur les murs toutes ces photos et c'était pour lui, à chaque fois qu'il arrivait, il me disait « mais il y a de Vachem ici ».
Est-ce qu'il vous soutient dans vos démarches?
Oui, je pense qu'il comprend. Il comprend ce besoin maintenant. Même dans la famille, on aimerait bien que je le dépasse, mais je pense que je n'étais pas prêt à les lâcher. C'est comme ça que je perçois la chose, je pense que j'ai vécu avec eux à côté sans être obnubilée tous les jours parce que ça ne m'a pas pris chaque minute de ma journée. Mais c'est une manière de les garder près de moi.
Votre rapport au judaïsme aussi a évolué. Alors, est-ce que c'est lié à vos recherches ou est-ce que c'est lié à une quête personnelle? Vous vous êtes rapproché du judaïsme, de la pratique, des textes?
Oui, parce que on est, comme tous les juifs... Ashkenaz, pendant la guerre, c'était difficile de pratiquer. Du côté de mon père, mon grand-père était administrateur de la synagogue rue Notre-Dame de Nazareth, mais il n'était pas aussi pratiquant que ça. Mon grand-père, qui a été déporté, lui, était religieux, il mettait les téfilines tous les matins. Et ma grand-mère maternelle, jusqu'au dernier jour de sa vie, a été pratiquante. Donc j'avais cette lumière et j'avais cette flamme. Dans ma quête, je me suis aussi demandé pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez nous qui amène tant de haine? Et j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en étudiant, j'ai découvert des choses magnifiques et des choses... Enfin, c'est d'une intelligence, c'est les choses de la vie. J'ai plus une approche par la raison que par la foi, mais tout ce que je découvre m'enchante.
Au niveau du judaïsme ou au niveau de vos recherches mémorielles?
Les deux, je pense que c'est une quête de soi quelque part. Et en même temps, c'est une leçon de vie. Le judaïsme, c'est une leçon de vie au quotidien. L'année dernière, à l'occasion de Yom HaShoah, on était en plein confinement. Et du coup, j'avais mis au mur, comme ça, les photos de nos chers disparus pour essayer d'expliquer. Et mon petit-fils, le plus jeune, avait 6 ans à ce moment-là. Et je me suis dit, mais comment je peux raconter? On ne peut pas non plus décrire l'horreur de tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on se demande pour qui, pourquoi. Et je pense que le plus important, c'est d'apprendre. Et ce que nos parents ont fait, c'est de nous apprendre la tolérance et le respect de l'autre. Et je pense que toute l'histoire, et c'est de chaque génération où on recommence, c'était ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et je pense que ça, c'est ce qu'on nous apprend, ce que nous apprend le judaïsme. Et ce que moi, je voudrais essayer d'apprendre à mes enfants et que nos parents nous ont transmis, le respect de l'autre, la tolérance.
Et connaître le passé pour éclairer le présent, notamment oui. dans la transmission à vos petits-enfants. Est-ce que vous savez ce que vous souhaiteriez faire maintenant de ce fonds d'archives impressionnant que vous détenez?
Comme vous dites, j'ai la matière pour un livre, pour un film, pour une exposition. Donc, je voudrais finir de bien le ranger, qu'il soit accessible à tous. Et je voudrais sans doute, à la fin, l'offrir sans doute au mémorial pour qu'il reste et qu'il survive. Mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à exploiter de ça. Et puis, chose surprenante, c'est qu'on fait des découvertes tous les jours et on trouve encore des documents. Puis les choses de la vie sont étonnantes. À l'occasion de ce film que je fais pour les parents, je suis retournée sur les lieux de où ils ont vécu. Et on s'aperçoit comme... la boucle un peu, on revient toujours, les gens qui occupent l'appartement, enfin, connaissaient mes enfants. Et c'est vraiment surprenant tous ces hasards qui ont... On se demande s'ils en sont ou s'ils en sont
pas vraiment. Des hasards. Oui. Si vous aviez des conseils à donner aux auditrices ou aux auditeurs de Radio Shalom qui souhaiteraient commencer des recherches sur leur famille, qu'est-ce que vous leur diriez?
Qu'est-ce que je leur dirais? Ben, d'interroger au maximum les gens et déjà de demander, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses, de pouvoir interroger autour d'eux. Et puis la chance qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'Internet a permis l'accès absolument facile à tout un tas de recherches. Donc voilà, mais il faut effectivement derrière, qui n'a pas été mon cas, il faut produire. Et aujourd'hui, il faut que je sorte quelque chose de là. Il faut que ça... que j'arrive à le sortir et à le donner aux autres.
Merci infiniment, Joël, d'avoir parlé avec nous de votre histoire familiale, qui peut servir évidemment de modèle et en inspirer plus d'un parmi nos auditrices et nos auditeurs. Et on souhaite peut-être vous voir revenir pour un film, un livre ou une exposition prochainement. Bonsoir et à bientôt.
Bonsoir, merci.